Merci. Donc moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que chez nous, toujours, je prends l'exemple du Sénégal, même nos textes de lecture en français, pour que les élèves les comprennent rapidement, nous utilisons nos langues maternelles. Et ça passe rapidement. Rapidement, ça passe. Même des livres en français, des fois, nos enfants, quand ils lisent un livre en français, pour qu'ils comprennent le livre, on leur demande d'essayer de traduire dans nos langues maternelles.
C'est ça,
et ça passe.
Ouais. Alors, moi, c'est juste un constat qui m'a rendu très, très humble en cours de FLS, en collège. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas réussir à expliquer quelque chose à des grands débutants de langues complètement différentes. Ils étaient, et je butais sur un élève qui ne comprenait pas. Je n'arrivais pas à me faire comprendre. Je dis à son voisin, écoute, vas-y, essaye. Qui ne parle pas du tout et ça fonctionne.
Qui parlait pas du tout quoi?
Pas du tout la même langue.
Ah, et... il parlait pas la même langue.
Non.
D'accord.
Et sans utiliser le français. Et là, je dis bon, mais c'est bon, je vais changer de métier.
Donc il parlait pas la même langue.
Il a réussi à lui expliquer.
Il a réussi à lui expliquer.
Oui, ça a fonctionné.
Mais en français ou dans
non,
autre,
pas
dans
en français.
Mais pas en français.
Avec des gestes, avec des mots, avec. Et je regrette ce jour-là de pas avoir eu
de caméra.
De caméra. Et c'est arrivé à trois ou quatre reprises.
Ouais.
Et entre eux, ça fonctionne. Ils ont des choses magiques.
Oui, des espèces
de
langues, de répertoires, de classes d'accueil qui se mettent en place avec les gens, avec les langues des personnes qui
des
sont
trucs,
là.
Des trucs, leurs trucs qui fonctionnent très très bien.
Mais c'est d'ailleurs souvent pour ça que dans les classes d'accueil, il y a une ambiance très particulière.
Ah, c'est pas classe d'accueil chez nous, mais bon, c'est c'est un.
Mais le fait d'avoir une langue qui est propre à un groupe de personnes, ça détermine une identité de groupe assez forte. Ça contribue en fait à l'endogroupe, le fait d'avoir une langue qui n'est valable que dans pour ce groupe de personnes-là.
Et puis juste dans le même ordre d'idée, il joue sur ce que nous, on ne pratique pas toutes les langues de nos apprenants. Ils arrivent, eux, d'instinct de jouer sur l'intercompréhension des langues qu'ils pratiquent les uns et les autres.
Oui, on comprend toujours beaucoup plus que ce qu'on est capable de dire.
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous exprimez.
Vous êtes aussi contre le français de langue de
totalement, scolarisation. Non, je ne suis pas contre, mais j'ai enseigné 3 ans en UPE 2A et aujourd'hui, je travaille avec le CASNAV de Besançon. Et on essaye d'accompagner les équipes qui se posent beaucoup de questions d'orientation, notamment pour inclure les élèves en classe ordinaire. Et souvent, on me dit, ah mais non, mais c'est pas possible, il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la langue. Et moi, je dis, mais non, il n'y a pas de barrière de la langue. Il faut qu'ils y aillent en classe ordinaire et tu verras qu'ils vont développer des stratégies de compréhension qui vont t'étonner et très rapidement. Et les profs de classe ordinaire qui n'ont jamais enseigné en UPE 2A ou qui n'ont pas d'expérience de vécu à l'étranger ou de situation d'élève à l'étranger, etc., ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Et je trouve que le travail très simple que vous montrez là le montre très bien. Le français de médiation, il arrive très rapidement. Et ce que tu expliques, enfin ce que vous expliquez tout de suite aussi en l'interaction entre les deux élèves, c'est des choses. Nous, on passe notre temps en CASNAV à dire aux profs, faut créditer les élèves allophones d'une marge de progression. Dans quelques temps, ils vont arriver à le faire en langue française, mais c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer en langue française tout de suite qu'ils sont pas capables de réaliser la tâche. Et c'est très difficile. On parlait ce matin de comment identifier les besoins de formation pour les formateurs, pour les enseignants qui n'ont pas travaillé en UPE 2A. Et c'est très difficile de leur faire comprendre ça. Autrement. Qu'en le disant comme je le dis, mais moi je ne peux pas aller plus loin. Et je trouve que cet outil-là va m'aider à aller plus loin, donc je vous en remercie.
Mais je trouve que c'est une très très bonne chose à faire à des futurs profs de faire ce travail, de trouver un élève un peu informateur comme ça, de lui demander de s'enregistrer, voire maintenant de se filmer, et parce que ça permet vraiment de prendre conscience de le ralenti permet de voir comment on mobilise les ressources pour mettre en place l'intercompréhension. Alors bon, évidemment, le revers de la médaille quand même, parce qu'il y a quand même un revers de la médaille. Quand vous dites ils sont capables de faire la tâche, bien sûr qu'ils sont capables de la faire. Après, si c'est une tâche écrite, par exemple, c'est évident que la forme écrite va être extrêmement éloignée parfois de ce qu'on peut attendre dans les attentes raisonnables en fonction de l'âge de l'élève. Et c'est là que c'est difficile pour l'école. Ça veut dire qu'on doit accepter que la forme de la langue puisse être pas mal éloignée, voire très éloignée de la langue standard. Et ça pose un problème pour l'école qui incarne la langue standard, qui doit la transmettre.
Bon, c'est du sujet dont on a déjà discuté. Mais
on va faire un gage-prêche.
Je suis très largement d'accord avec toi.
Oui, pas avec mon. T'es beaucoup plus normatif que moi, toi.
Oh, on a remarqué avec ma voisine que tu avais fait preuve de normativité aujourd'hui.
Moi ?
Oui, t'as dit, elle est sur la bonne voie.
Ah ouais. Non, mais je voulais
Marinette,
dire.
Marinette, on a noté la date.
Non, mais elle est sur la bonne voie de l'apprentissage du français. Bonne dynamique. Bonne dynamique d'apprentissage.
Non. La discussion n'est pas là. Moi, je trouve l'exemple extrêmement positif. La seule chose où je le nuancerais, c'est sur deux points. D'une part, c'est, je crois, les contraintes institutionnelles qu'ont souvent les enseignants. C'est-à-dire que s'ils doivent évaluer avec des épreuves communes après trois mois ou après six mois, ou s'il y a des examens comme ça, là, ils sont dans une impasse face à ce genre d'approche. Mais la deuxième nuance, c'est un peu plus interne, disons, alors consubstantielle. Je dirais qu'elle dépend d'un certain. Une telle progression, elle dépend d'un certain nombre de conditions qui doivent être acquises pour que ça se passe. Parce que. Enfin, une des conditions, par exemple, c'est. On le voit bien dans ton exemple, Sandra est très positive, a envie d'apprendre.
Oui,
c'est-à-dire que le contrat didactique fonctionne.
Oui, absolument.
Comme le montre son exercice à la maison, c'est très bon son exercice. Oui, oui. C'est très, enfin, on voit qu'elle a envie d'apprendre. Alors là, ça marche
bien
très
sûr,
bien.
Bien sûr.
Si un certain nombre de conditions de ce genre sont réunies, il faudrait les lister si on veut. Oui. Quelles sont les conditions à mettre en place pour qu'une telle approche soit possible? Parce que simplement comme ça, je pense que ça marchera dans certains cas et ça ne marchera pas du tout dans certains autres. Pour des raisons que je ne connais pas bien, que je ne maîtrise pas bien, qu'il s'agirait de connaître. Bon, on ne veut pas reprendre les vieux concepts de fossilisation et de choses comme ça, mais il y a des choses à prévenir quand même.
Oui, moi je pense que la meilleure manière de diminuer le risque de fossilisation, donc que l'interlangue cesse d'évoluer alors qu'elle est encore dans un état très éloigné du standard, c'est de multiplier les interlocuteurs, de multiplier les identités que la personne peut revêtir quand elle est dans une interaction, de multiplier les tâches différentes qu'on peut faire en français, mais aussi dans d'autres langues, et surtout donner du travail aux gens, absolument. Et puis, ne pas être... alors là, c'est un peu idéologique ce que je dis, mais ne pas être coincé sur ces histoires de mélange, et d'alternance des langues, de mélanger, de pas considérer que le fait, comme j'ai entendu, c'est une étudiante qui m'a raconté ça hier à Neuchâtel, c'est une étudiante de l'université de Neuchâtel qui prend des cours de français à l'université de Neuchâtel et qui à un moment donné ne savait plus comment on disait fleuve et qui a dit c'est quoi le nom de ce fiume, et puis la prof a dit si on parle français. Bon, bah, ce type d'attitude, je pense vraiment que ça va contre, c'est contre-productif. Et il y a encore quand même beaucoup de gens, et notamment des enseignants, qui ont cette attitude de vouloir à tout prix bien séparer les choses, parce que sinon, c'est comme si on allait vers l'anomie, vers le n'importe quoi, le chaos. Et moi, je pense qu'il faut le magma, le chaos, il en faut beaucoup pour que à la fin, on arrive éventuellement à faire des choses en une seule langue. Voilà.
Une dernière intervention ?
Je voulais juste, par rapport à ces remarques métalinguistiques et au refus d'une forme d'alternance, je reviendrai à l'effet loop dont on a parlé plusieurs fois. On trouve les mêmes choses en français langue maternelle, je pense. C'est pas uniquement en français langue de scolarisation ou en français langue seconde. On va trouver des rejets comme ça de formes qui ne sont pas les formes attendues au moment de la tâche, qui peuvent avoir le même effet, je pense, sur les apprenants et sur leur engagement dans la tâche et leur motivation.
Absolument.
Et tout ça. Voilà. Ouais. Je vais juste refaire ce lien-là.
C'est juste que quand c'est en langue seconde, ça multiplie les problèmes par 10, 50 ou...